comme chaque mercredi, à 17h30, vous avez rendez-vous avec Lilin Info, le magazine consacré à l'Université de Lilin. Aujourd'hui, nous allons parler de langues étrangères avec Léonore Berecki, donc qui s'occupe de la structure français langue étrangère au service de l'Université de Lilin, qui est chargée donc de la pédagogie de ces langues. Léonore Berecki, bonjour.
Bonjour.
Donc effectivement, de nombreux étudiants étrangers viennent en France, notamment dans l'Université de Lilin.
Oui.
C'est évidemment de nombreuses personnes qu'il faut accompagner, accueillir, guider, et puis aussi dont il faut peut-être améliorer la connaissance de la langue française.
Oui, exactement. Ces étudiants qui arrivent soit avec déjà un bagage linguistique important ou moins important, puisque nous accueillons des étudiants de tous les niveaux, des étudiants débutants, donc en A1, jusqu'aux étudiants en C2, c'est-à-dire des étudiants qui ont un niveau confirmé, qui ont déjà fait des stages en France ou suivi quelques cours en France. Et à leur arrivée, en effet, nous leur proposons un accueil, une intégration et puis un accompagnement dans la structure universitaire afin de leur permettre de vivre en France au quotidien, mais aussi de faire leurs études dans les conditions optimales.
Alors c'est vrai que pour les étrangers qui viennent en France, il y a le contrat d'intégration. C'est, j'allais dire, une passerelle en quelque sorte pour adapter les gens qui viennent en France et qui souhaitent y vivre un certain temps. Pour les étudiants étrangers, est-ce que tous ont un minimum de langage français ?
Non justement, mais tout dépend du partenariat ou du contrat qui a été passé entre les universités d'origine et l'université d'accueil. Nous avons par exemple des étudiants qui viennent suivre des cours en anglais, par exemple à l'IAE, ou des étudiants qui viennent pour faire un projet. Donc il n'y a pas pour eux d'obligation d'avoir des connaissances, même minimum, de ce qu'on appellerait de survie en langue française. En revanche, pour d'autres étudiants, je pense aux étudiants Erasmus ou en programme d'échange, donc les étudiants Erasmus et les étudiants chinois, par exemple, pour lesquels le Centre international a signé des conventions avec les universités d'origine, il y a une obligation de niveau minimum. Mmh. Ce niveau requis est attesté par le passage, par exemple, d'un examen type TCF, test de connaissance du français, et qui permet, par exemple, pour les Chinois, l'attribution d'un visa étudiant.
Alors cet examen est passé en Chine, je suppose.
Oui.
Donc on peut donner un certain crédit quand même à la qualité de la langue pour les gens qui ont un certificat en bonne et due forme.
Bon. Pas toujours, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'à leur arrivée, on fait une analyse de leurs besoins. Mm-hmm. Bon. Donc, on teste leur niveau et en fonction du niveau qui a été établi pour chaque étudiant, on leur propose une formation appropriée. Donc, par exemple, pour les étudiants Erasmus Mundus, ce sont des étudiants qui sont en programme d'échange. Il y a des groupes de niveau. Donc, les étudiants passent de toute façon un test de placement à leur arrivée et ils sont intégrés dans un groupe qui correspond à leur niveau, qui va, je le rappelle, du A1, vrai débutant, au C2, étudiants confirmés dans la langue. Pour les étudiants chinois, en convention, c'est un petit peu différent parce qu'ils viennent en groupe, donc il y a une certaine hétérogénéité dans les niveaux, d'autant plus qu'en Chine, ils ont pour certains suivi des cours de langue dans leur université et pour d'autres à l'Alliance française, par exemple. Donc les niveaux sont différents parce que les méthodes pédagogiques sont différentes.
Sur le temps, si on voit un petit peu cette période de 5 ans, par exemple, est-ce qu'on sent des étudiants qui sont davantage formés au français ou est-ce qu'ils ont davantage de difficultés quand ils arrivent? Est-ce qu'on sent une évolution?
Alors, on sent une évolution au niveau des étudiants chinois parce que d'une année sur l'autre, les étudiants présents explique un petit peu aux étudiants, aux nouveaux étudiants, ce qu'on attend d'eux. Donc, les étudiants ont une motivation supplémentaire, des exemples concrets de ce à quoi ils doivent arriver en termes de niveau pour suivre au mieux leur formation en France. Bon. Pour les étudiants Erasmus Mundus, c'est un petit peu différent parce que les étudiants n'ont pas forcément, d'une année sur l'autre, n'ont pas forcément de contact les uns avec les autres. Et on peut remarquer que certains étudiants viennent, je ne dis pas en premier lieu pour la langue, mais sont des étudiants qui, par exemple, ont fait du français au lycée, qui ont quelques souvenirs et qui viennent pour améliorer leur langue. Donc, pendant les premiers cours, on sent qu'ils doivent rechercher très très loin dans leur mémoire les rudiments qu'ils ont pu apprendre. Et c'est pour ça qu'on propose à leur arrivée, pour ces étudiants en Erasmus et Erasmus Mundus, on leur propose un accueil linguistique intensif de 18 heures qui leur permet de se remémorer, pour certains, des connaissances un peu anciennes. Et en général, ces étudiants, si je peux me permettre quelques exemples, les étudiants qu'on a diagnostiqués en A2, par exemple, peuvent passer en B1, voire quelquefois B2, donc étudiants plus d'un niveau plus confirmé, quand ils entament la formation extensive, dont on n'a pas encore parlé, mais pour laquelle je pourrais peut-être donner quelques explications. Là, il ne s'agit plus de l'accueil, mais il s'agit de l'accompagnement, c'est-à-dire que les étudiants sont entrés dans leurs composantes, suivent des cours dans leur domaine de spécialité et parallèlement suivent des cours de français sur un créneau par semaine. Et pour les enseignants, ça leur permet de répondre plus précisément à des besoins qui ont surgi lors de la fréquentation des cours de composantes.
Alors, si on compare la formation qui est donnée dans la formation donc des langues à l'université de Lille 1 avec la formation initiale dans les langues étrangères dans les universités étrangères, est-ce qu'il y a, d'un point de vue pratique, des thématiques qui sont différentes, des centres d'intérêt? Comment sont motivés les étudiants et par quoi sont-ils motivés aussi d'ailleurs?
Alors, nos objectifs à nous, c'est non seulement de leur apporter des connaissances linguistiques et lexicales, mais il faut savoir que ces connaissances ne sont qu'un outil qui leur permet de s'intégrer dans leur vie quotidienne, dans leur environnement universitaire, et ensuite dans leurs composantes. C'est-à-dire que nous prévoyons pour eux toute une série de projets, puisqu'on travaille sur la base de la pédagogie par projet, la pédagogie par tâche. Donc la langue n'est qu'un moyen d'accéder à autre chose, à un certain nombre de connaissances. Bon. C'est pour ça qu'on a une approche culturelle et interculturelle qui permet aux étudiants de s'intégrer dans toutes les situations de communication, mais aussi de mieux comprendre nos références culturelles, nos codes, et donc de mieux s'intégrer. Il y a aussi une autre partie qui est très importante, qui intervient notamment pour les étudiants chinois en convention, dans la deuxième partie de leur formation intensive, puisque ces étudiants ont entre 350 et 550 heures de cours, ce qui est énorme, mais en même temps, pas tant que ça, puisque le temps passe très vite. On leur propose, donc dans la deuxième partie de leur formation, une formation plus sur objectif spécifique. Objectif spécifique, c'est-à-dire qu'on les prépare à entrer dans leur composante, on les prépare à écouter un cours magistral. Donc on travaille la prise de notes, on travaille un certain nombre de techniques. La prise de notes, la lecture de consignes, on les prépare aussi à rédiger des comptes rendus, à présenter un exposé, qui leur permettront, donc lorsqu'ils seront dans leur composante, d'avoir de meilleures armes pour suivre leur formation et pour réussir, bien sûr, leurs examens, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'objectif premier de ces étudiants.
Est-ce que lorsqu'ils arrivent pour la première fois dans un amphi, avec un cours magistral, les professeurs d'université sont prévenus de l'arrivée d'un nouveau groupe d'étudiants étrangers? Est-ce qu'ils s'adaptent un peu à eux, ou alors il faut vraiment que les étudiants fassent...
Ça dépend des enseignants. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup concentré sur cette préparation à l'entrée dans les composantes. Et c'est pour cette raison qu'avec mes collègues, notamment ma collègue Pascale Maillard, on a développé un partenariat très fort entre la formation FLE et les enseignants de composantes, et notamment les responsables relations internationales, que nous allons voir régulièrement pour leur demander, par exemple, à quelle méthodologie ils font appel, quels exercices universitaires ils donnent aux étudiants. Donc, ça nous permet de mieux les préparer. Après, une fois qu'ils sont dans l'amphi, certains enseignants acceptent de répondre à certaines questions, acceptent de se faire couper la parole en plein cours, d'autres non. Donc on a tous les cas de figure, et c'est vrai qu'après les premiers cours, en amphi par exemple, les étudiants reviennent nous voir un peu affolés en disant qu'ils n'ont rien compris. Certains suivent des cours magistraux en vidéoconférence, donc c'est encore plus compliqué pour eux parce que l'enseignant n'est même pas là physiquement avec ses gestes, ses mimiques pour leur faire mieux comprendre le contenu. Certains enseignants n'utilisent pas de transparent ou de support, ne leur distribuent pas de polycopier. Donc là, les étudiants sont vraiment n'ont vraiment que leur connaissance et leur technique pour se raccrocher au cours.
Alors, je suppose que pour motiver ces étudiants, il faut autre chose qu'une vie en communauté restreinte de leur propre communauté linguistique, et que l'échange avec l'extérieur, notamment peut-être avec d'autres étudiants qui sont sur l'université, est bien sûr très important. Oui. Comment c'est possible de réaliser, je pense à certaines catégories d'étudiants, les Chinois sont plutôt timides en général, l'approche de l'autre est parfois un petit peu différente de la nôtre, où on va plus facilement vers l'autre.
En effet, alors pour essayer de remédier très modestement d'ailleurs à ce phénomène de repli sur soi lié à l'expatriation, hein, donc c'est tout à fait humain, à partir de cette année, on a développé des tandems franco-chinois, c'est-à-dire qu'un étudiant chinois est en relation avec un étudiant français, l'étudiant chinois apprenant bien sûr le français, mais l'étudiant français apprenant également le chinois. Mmh. Et des rencontres sont organisées régulièrement entre les étudiants, c'est-à-dire qu'ils se fixent la fréquence de rencontres, ils évoquent tous les sujets qu'ils veulent. Et là, on arrive à les faire un peu sortir de leur coquille. D'autre part, a été mis en place, et ça c'est un projet aussi très intéressant, le réseau social qui s'appelle Foreigners in Lille, projet créé par mon autre collègue David Cordina, qui permet aux étudiants bon, bien sûr, c'est un réseau social par Internet, donc, mais qui permet aux étudiants de faire partager un certain nombre d'expériences, de donner leur avis sur certains sujets, et des e-relations, on va dire, se créent, qui peuvent ensuite déboucher sur des rendez-vous et des rencontres tout à fait informelles.
Est-ce que dans l'année, on ressent, au bout d'un certain temps, des effets de l'éloignement avec la famille dans la psychologie des étudiants étrangers ?
En effet, il y a d'abord l'excitation de la découverte, l'arrivée dans un nouveau contexte, dans une nouvelle ville. Mais au bout d'un mois, un mois et demi, quand les étudiants se sont un petit peu appropriés l'espace, on sent qu'il y a une petite baisse de régie, une petite nostalgie que bien sûr on ne peut pas combler, mais on essaye au quotidien, notamment pour les étudiants chinois qu'on voit quotidiennement, de leur proposer un certain nombre d'activités pendant la semaine, mais éventuellement aussi le soir, afin qu'ils passent le temps agréablement et qu'ils ne ressentent pas trop cet éloignement. Bon, il faut dire aussi que les étudiants restent très en contact avec leur famille puisqu'ils se téléphonent régulièrement, etc., par Internet. Bon, évidemment, c'est pas suffisant. La rencontre avec d'autres étudiants internationaux ou des étudiants français leur permet aussi de relativiser un petit peu cet éloignement, puisque d'autres étudiants qui viennent bien sûr de pays moins lointains, donc qui ont l'occasion de rentrer peut-être plus souvent dans leur pays, mais la fréquentation de ces étudiants-là leur permet d'adoucir ce sentiment. Alors par exemple, là, si je peux me permettre d'évoquer un petit projet mis en place dernièrement, j'ai demandé à mes étudiants chinois d'aller interviewer un étudiant de leur résidence, un voisin, une voisine, pour faire connaissance. Donc c'est vraiment briser la glace. Alors ils ont eu très peur au début, mais finalement tout s'est bien passé, ils ont chacun trouvé un étudiant, et des petites relations se sont déjà créées. Bon, par exemple, un étudiant français et un étudiant chinois vont aller jouer au foot dimanche prochain, donc là on sent qu'il y a le début de quelque chose.
Donc c'est vrai que ces étudiants sont ici pour un certain temps, peut-être 3 ans même.
Oui.
Donc c'est une période à gérer dans la durée, on va dire. Et est-ce qu'ils prennent des habitudes assez rapidement ? Est-ce qu'ils ont aussi des craintes quant à leur stage ? Est-ce que pour eux c'est difficile de trouver un stage ? Et qu'est-ce qui peut faciliter leur intégration dans ces milieux professionnels ?
Alors en effet, pour les étudiants étrangers, c'est plus difficile de trouver un stage que pour les étudiants français. Alors, à la Maison des Langues a été créé par ma collègue Pascal Meyer un projet qui consiste à aider les étudiants dans la rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation. Elle va préparer aussi des simulations d'entretien. Les étudiants sont aussi mis en situation de recherche de stage sur la plateforme APEC, puisque c'est un partenariat avec le SUIO. Donc ça permet aux étudiants, c'est un tremplin pour les étudiants qui leur permet de trouver plus facilement un stage. Après, au niveau des composantes, il y a selon les composantes, évidemment, puisque certaines disent clairement que c'est à l'étudiant à trouver un stage et à se débrouiller, d'autres ont des entreprises partenaires qui accueillent régulièrement les étudiants étrangers.
Effectivement, pour eux, la notion de réseau, c'est difficile à faire jouer les réseaux comme certains étudiants français pourraient y avoir accès. Donc là, il y a tout à constituer.
Tout à constituer. Le travail est en cours. Bon, bien sûr, c'est un projet énorme, mais je pense par exemple à un projet qui est développé par le Centre international, c'est le réseau Utrecht, qui permettrait à des étudiants d'être accueillis dans des entreprises bon, sous des conditions bien sûr particulières, mais conditions de niveau, de certaines compétences et savoir-faire. Mais il y a constitution d'une banque de données, en fait, de nombreuses entreprises qui accepteraient par principe d'accueillir des étudiants étrangers. D'autre part, un partenariat s'est créé entre la Maison des langues et le World Forum. Si je peux expliquer en deux mots ce que c'est. Le World Forum est un forum qui rassemble un réseau d'entreprises qui ont décidé de se concentrer sur des bonnes pratiques, alors pratiques écologiques, etc. Et certains étudiants, on a commencé l'année dernière avec des étudiants de l'université de Rohai, ont présenté quelques bonnes pratiques qui existaient en Chine. Et l'idée, c'était de faire se rencontrer les professionnels des grandes entreprises et les étudiants chinois. Bon. Donc là, c'est aussi un projet qui entre dans le cadre de la recherche de stage.
Alors, effectivement, ces professionnels des grandes entreprises, certains d'entre eux, ces dirigeants, ont forcément des relations d'échange, des relations économiques avec d'autres pays. Ça devrait être un plus, ces étudiants.
Oui, mais là, on ne maîtrise pas ce sujet. Là, il faudrait vraiment être nous-mêmes en plus grande relation avec ces entreprises. Alors, on en parlait tout à l'heure hors micro d'une possibilité, par exemple, de rapprocher les étudiants avec la Maison de l'entrepreneuriat sur l'île. Ce serait à nouveau une piste de travail. Mais bon, influencer les grandes entreprises, bon, sous prétexte qu'il y a des partenariats économiques, ça nous dépasse. Cela dit, j'ai tout de même un exemple de projet sur la culture alimentaire qui est proposé chaque année aux étudiants. Je ne sais pas si je peux donner le nom de l'entreprise, Auchan. Donc nous emmenons régulièrement nos étudiants chinois qui font du reste leurs courses à Auchan dans le magasin pour prendre connaissance et s'adapter à notre culture alimentaire. Donc il y a, selon le projet qu'on met en place, hein, visite d'un atelier et ensuite échange de questions-réponses qui permet de soulever un certain nombre de questions et de problèmes dans les partenariats économiques entre pays. Et Auchan est particulièrement heureux de nous accueillir parce qu'il y a un partenariat très fort entre l'entreprise et la Chine.
Mmh. Alors c'est vrai que ça change un petit peu des problèmes qu'ont rencontré certaines sociétés françaises en Chine avec une certaine forme de boycott ou du moins de contestation. Oui. Donc là on est dans un autre champ, plus dynamique dans l'autre sens. Est-ce que des étudiants qui sont ici a priori dans le cadre d'un échange, ou que ce soit Erasmus ou un échange avec une université particulière, certains sont tentés ou intéressés par le fait de rester en France, et comment ça se passe à l'issue de leur session, on va dire, française?
Alors, un certain nombre d'étudiants souhaitent rester en France, tout au moins pour acquérir une expérience plus importante. Si je prends l'exemple de la Chine, aujourd'hui, un étudiant chinois qui vient en France uniquement pour avoir un diplôme français n'aura pas l'assurance de trouver du travail en rentrant en Chine, parce que beaucoup d'étudiants partent à l'étranger, donc c'est pas vraiment une valeur ajoutée. En revanche, s'ils ont une expérience plus importante dans une entreprise française ou une entreprise qui a un partenariat avec la Chine, une entreprise franco-chinoise ou une entreprise d'une autre origine, c'est une valeur ajoutée certaine pour cet étudiant lorsqu'il rentrera dans son pays. En général, les étudiants chinois ont toujours dans l'idée de rentrer au pays, peut-être au bout de 5 ans, 6 ans, après leurs 3 ans de formation, parce que leur état d'esprit, c'est toujours de servir le pays. pour les étudiants Erasmus Mundus, je ne peux pas être aussi catégorique parce que c'est des étudiants qu'on suit moins longtemps, mais certains ont la perspective de rester un moment en France, en tout cas de quitter leur pays. Je pense particulièrement à des étudiantes italiennes qui viennent du sud de l'Italie, qui me disaient récemment qu'elles ne souhaitaient pas vivre en Italie, travailler en Italie, parce que l'environnement et le climat politique ne leur convenait plus. Bon.
Est-ce que ces étudiants, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils ont encore la mémoire des gens et peut-être aussi la relation qui continue avec certaines personnes, notamment de l'université, des professionnels, par échange, qui se poursuivent, hein? Ou est-ce qu'une fois que c'est fini, c'est fini?
Alors, on n'a pas actuellement forcément le recul nécessaire, puisque la Maison des langues existe depuis 4 à 5 ans. Ce suivi est possible avec notamment le réseau social qui nous permet finalement à 10 000 km de se retrouver comme si nous étions proches. Mais actuellement, je n'ai pas le recul nécessaire pour répondre à la question. En revanche, quand les étudiants sont encore en France, quand ils travaillent, quand ils sont en stage, enfin en tout cas quand ils ont fini leur formation universitaire, on a régulièrement des nouvelles de ces étudiants, et peut-être particulièrement des étudiants chinois qui considèrent leurs professeurs comme une sorte de mentor. Ils sont très attachés à nous, ils nous demandent encore des conseils, même après avoir quitté l'université.
Est-ce que le taux de réussite des étudiants étrangers est significatif?
Alors tout dépend finalement, je dirais, de leur investissement. Mm-hmm. Parce que certains étudiants ont juste la perspective de réussir leur examen à l'issue de leur séjour en France. Certains ont plus de difficultés soit parce que l'investissement n'est pas suffisant, soit parce que la formation, et je le dis très modestement, n'est pas suffisamment adaptée. Je pense particulièrement à certains étudiants qui ont un niveau oral très correct, mais qui fait un petit peu illusion, et à l'écrit, le niveau n'est pas suffisant pour bien réussir dans leur domaine de spécialité, dans leur composante. Bon. Malheureusement, ces étudiants ne sont pas toujours repérés, puisqu'il y a près de 4000 étudiants étrangers sur le campus universitaire. On touche à peu près 400 à 500 étudiants. Donc il reste une grande partie des étudiants qu'on n'arrive pas encore à toucher. Pourquoi ? Parce que ces étudiants n'ont peut-être pas pris conscience de ces difficultés. Et c'est très difficile de dire à un étudiant qui s'exprime bien à l'oral qu'il a besoin de cours pour s'adapter aux exercices universitaires qu'on lui demande.
C'est vrai que le français reste très compliqué pour un étranger.
Non.
En tout cas, merci d'essayer de leur trouver des solutions, Mme Berski. Et donc, bonne chance, bon succès avec tous ces étudiants.
Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci de m'avoir accueilli.